Antoine Diouf.
La foudre tue 4 personnes dans le département de Bignonan. C'est un début d'hivernage mortel dans le sud du pays, puisque dans la région de Sédio, un jeune a été également tué par la foudre. Appel à l'armée française, les fausses déclarations de Karim Wade et de son entourage, Robert Bourgi, confirme que le fils du président Abdoulaye Wade l'a bel et bien appelé pour une intervention des forces françaises au Sénégal lors des émeutes de l'électricité. Après la déclaration fracassante de Robert Bourgi, plus de réactions, la LD demande la démission de Karim Wade. Le cercle des intellectuels du Sénégal exige non seulement sa démission, mais sa comparution devant la Haute Cour de justice. Et puis, selon les proches d'Idrissa Seck, Karim Wade manque de culture d'État. Dans ce journal, les dangers des médicaments de la rue, mais également de l'automédication, c'est l'objet du focus du jour. À suivre la page des sports, le journal de la présidentielle, il y aura également la chronique sport. Et puis la presse du jour avec Babacar Fall. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal avec une note macabre. 4 personnes mortes dans le département de Bignona. Elles ont été tuées par la foudre. Abdoulaye Sambou.
C'est la tristesse et la consternation à Tobor et Gilakoune, deux villages situés dans le département de Bignona, distant de 10 et 12 km de Ziguinchor. 4 personnes, dont 2 enfants, tués par une foudre qui est tombée dans ces deux villages pendant qu'une forte pluie accompagnée de tonnerres s'abattait dans la zone. D'abord, à Tobor, ces deux jeunes d'une même famille qui travaillaient aux alentours de leur maison pendant qu'il pleuvait, qui ont été surpris par cette foudre qui est tombée dans leur maison. Sur le coup, les deux garçons rentrent l'âme avant leur évacuation au poste de santé du village. Non loin de là, à Gilakoune, village situé à 2 km de Tobor, 2 enfants ont aussi trouvé la mort. Une foudre tombée aux alentours de leur maison les a complètement calcinés. Au total, 4 personnes tuées par la foudre dans ces deux villages, on note l'absence de paratonnerre. Les populations, la mort dans l'âme, demandent un appui aux autorités. Il faut dire que dans cette partie sud du pays, rares sont les villages qui disposent de paratonnerre. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM.
Un jeune de 17 ans en classe de 3e a été également tué par la foudre à Medina Wandifa dans la région de Sédio. La victime téléphonait au moment où il recevait la décharge qu'il a abattue. Le conseil municipal de Matam va en croisade contre les problèmes d'inondation et d'insalubrité. Et les arriérés dus à la Sénélec ont été payés. C'est pour permettre la remise en marche de la station de pompage des eaux de pluie. Matam a également un nouveau système de collecte d'ordures ménagères. Le delta du Saloum, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il a été classé ainsi selon des critères importants. Les détails avec Charlotte Lalanne. La série Charlotte Lalanne que nous allons retrouver dans un instant.
L'exceptionnalité du lieu, c'est le critère numéro 1 pour classer un site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, pourquoi le Saloum ? Christian Dombi, conseiller régional pour la culture à l'UNESCO, explique.
Le delta du Saloum a cette particularité, c'est une zone exceptionnelle de nidification. Hein, comme vous savez, il y a un certain nombre d'espèces d'oiseaux qui viennent pendant la saison. Et ensuite, nous sommes dans une région où il y a des îles qui sont constituées uniquement de coquillages.
Qui dit classement au patrimoine dit croissance du tourisme. Une bonne nouvelle, certes, mais aussi une menace potentielle pour l'environnement. Tout sera fait pour sa préservation, selon Hamadi Bokoum, directeur du patrimoine.
L'État du Sénégal déjà préserve ce site depuis très longtemps. Il y a un parc national là-bas, il y a une aire maritime protégée, il y a une réserve de la biosphère. Maintenant, il y a une inscription au patrimoine mondial avec, bien sûr, une aura beaucoup plus grande, donc une pression humaine qui sera plus forte. Et pour cela, il y a un plan de gestion qui a déjà été élaboré. Delta du Saloum est géré de manière traditionnelle, extrêmement efficace. C'est les femmes qui ont l'exclusion de l'exploitation des coquillages, ce qui fait que c'est extrêmement normé. Donc je pense que parfois il faut faire confiance aux expertises locales.
Le prochain rendez-vous est fixé à Toubacouta à la fin du mois. Le gouvernement et l'UNESCO iront à la rencontre des populations du delta du Saloum.
Il est 7h05, vous suivez le journal sur la radio Futur Média.
Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles.
RFM, la radio de toute l'actualité.
L'actualité politique.
En politique, justement, Moustapha Samb, candidat à l'élection présidentielle de 2012, sa candidature a été portée par le parti, c'est Naskan Mustapha Sambé, enseignant au CESTI, Madeleine Sen.
Sen Askan sera de la présidentielle de 2012. Ce parti a décidé de faire de Mustapha Sam son candidat. Le président de Sen Askan, Ababakar Gueye, explique les raisons de ce choix.
Pour son passé, pour ce qu'il a eu à faire pour sa patrie, mais surtout que c'est un homme qui tend l'oreille, c'est un patriote et c'est quelqu'un qui est plus qu'instruit, tout le monde le sait. Et nous pensons qu'il n'y a pas un homme plus méritant que lui dans le landerneau politique sénégalais.
Le futur candidat axe sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais.
Remettre le Sénégal sur les rails, la demande sociale est là. En résumé, la paix sociale, redonner aux Sénégalais la confiance qu'ils ont perdue. Il faut leur faire savoir qu'il n'y a pas que la politique, il y a le culte du travail, le culte de la dignité. Travailler à l'émergence d'une conscience nationale, que les gens sachent que ce pays-là nous appartient. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance par rapport à notre situation de Sénégalais.
Mustapha Sam demande toutefois que le montant de la caution soit revu à la baisse.
La caution, mais elle est dure pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des partis qui ont plus de moyens que nous. Si on a la caution, on y va. Si on n'a pas la caution, l'impossible, nul n'est tenu. On aura au moins le mérite d'avoir participé au débat politique de notre pays.
Sen Askan se dit prêt à nouer des alliances avec d'autres partis du pouvoir ou de l'opposition. Mais selon Mustapha Samb, si Wad se présente en 2012, c'est pour remettre le pouvoir après à quelqu'un d'autre.
Robert Bourgier met fin au débat sur l'appel de Karim Wad pour une intervention de l'armée française au Sénégal. Lors des émeutes de l'électricité, l'avocat proche du régime de Nicolas Sarkozy, Robert Bourgi, donc, a bien dit que Karim l'a appelé pour cela. Mais il y a eu un refus catégorique de sa part, parce que c'est une affaire sénégalo-sénégalaise, dit-il. Robert Bourgi avec El Hadj Alassane Samadiop.
Dans la nuit, lorsque les événements se déroulaient à Dakar, les événements tragiques que l'on connaît, j'ai été réveillé à 3h20 du matin, heure française, par Karim Wad, qui me dit que c'est exactement ceci. Et là, je rapporte fidèlement ses propos. Dakar et le Sénégal sont dans une situation quasi insurrectionnelle. C'est exactement le terme qu'il a employé. Les immeubles administratifs brûlent, ça brûle de tous les côtés, des milliers de manifestants, on a saccagé les villas de trois ministres, brûlé, mis les gens dehors, tout va très 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 mal, et on ne sait jamais, les intérêts français peuvent être touchés et tout et tout. Et je lui ai dit, Karim, tu paniques, je voudrais que tu sois un peu plus cohérent. Il me dit non, tu sais, on ne sait jamais, l'armée française est là pour quelque chose. Alors là, je l'ai immédiatement arrêté et je lui ai dit, Karim, je ne suis pas une autorité politique, je ne suis qu'avocat au barreau de Paris. Il me dit oui, mais tu peux éventuellement alerter nos amis, tes amis. Je lui ai dit, Karim, je n'en ferai rien.
Robert Bourgi, que vous pourrez entendre plus largement dans la rubrique L'invité matinal, ce sera après cette édition de 7h. Karim Wad doit démissionner suite à cette affaire. Selon le porte-parole de la LD, Moussa Sarr demande par ailleurs à Abdoulaye Wad de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat en 2012.
Nous nous sommes intéressés à la prétendue disponibilité du président de la République à dialoguer avec l'opposition. Sur cette question, nous nous en tenons à la plateforme consensuelle du mouvement du 23 juin. Et nous demandons au président de la République à ce propos de faire une déclaration solennelle à la nation pour s'engager clairement à dire aux Sénégalais que sa candidature à l'élection présidentielle de 2012 n'est pas recevable au regard de la Constitution et politiquement elle est inacceptable au regard de son âge. Ensuite, nous renouvelons notre exigence qui consiste à demander au président de la République à nommer à la tête des ministères de l'Intérieur et de la Justice des compatriotes politiquement neutres et crédibles pour l'organisation des élections de 2012. C'est à ce prix que la stabilité du Sénégal régnera. La deuxième question, compte tenu des accusations graves qui ont été portées à l'encontre du fils du président de la République, par lesquelles nous avons été informés qu'il a demandé à l'armée française d'intervenir à Dakar le 27 juin, Compte tenu de la gravité de ces accusations, nous exigeons que Karim Wade démissionne du gouvernement. Cela montre suffisamment le mépris que le président et sa famille ont non seulement pour l'État du Sénégal, mais également pour les Sénégalaises et les Sénégalais.
Le fils du président Wade manque de culture d'État. C'est la réaction du porte-parole d'Idrissa Seck. Oumar Sarr en profite pour dire que cette déclaration de Robert Bourgi confirme les propos d'Idrissa Seck qui disait n'être pas au courant du projet de loi sur le ticket présidentiel. Vous avez écouté Oumar Sarr lors de nos dernières éditions. Et puis, le cercle des intellectuels du Sénégal ne veut ni plus ni moins que la comparution de Karim Wade devant la Haute Cour de justice pour l'acte commis. Le coordonnateur du CIS, le professeur Malik Ndiaye.
La fonction de la lettre ouverte de M. Karim Wade à présent, c'est de dissimuler une félonie qui maintenant est clarifiée par M. Robert Bourgi, premièrement. Deuxièmement, la démarche initiée par le prétendu groupe des six pour un gouvernement d'union ou de transition n'a pas d'objet tant que le président Abdoulaye Wade, agissant en qualité de président de la République, n'aura pas limogé immédiatement et sans délai le ministre d'État Karim Wade pour usurpation de fonctions, mise en danger de la République et forfaiture équivalente à une haute trahison qui doit être jugé par conséquent par la Haute Cour de justice. Je déclare que jusqu'à ce que ces deux points de principe soient clarifiés, la lettre ouverte en question cache un phénomène grave et est destinée à maquiller quelque chose de crapuleux. Et deuxièmement, que la démarche dite de conciliation en vue d'un gouvernement n'a pas d'objet tant que le président de la République n'aura pas immédiatement décidé de suspendre à titre conservatoire M. Karim Wade de toutes ses fonctions. Et conséquemment, évidemment, il faut que dans les meilleurs délais qu'il soit ouvert une enquête sur M. Karim Wade suspendu de toutes ses fonctions. Si le procureur de la République ne le fait pas, eh bien le peuple le fera.
RFM.
Le focus du jour qui tire prétexte du Forum pharmaceutique international. Nous allons parler justement des médicaments de la rue, un véritable danger. Quand on y ajoute l'automédication, le cocktail est explosif. Les pharmaciens parlent même de suicide. Et nonobstant toutes ces alertes, certaines populations font la sourde oreille s'approvisionnant dans la rue et ignorent les médecins en cas de maladie. Reportage Georges Détédio.
Pape Bitey est bijoutier. Il est bien portant, mais reconnaît faire très souvent dans l'automédication. Si tu ressens de petites douleurs, tu peux aller à la pharmacie te procurer un médicament. Et vous savez, les douleurs, tu peux prendre un paracétamol, par exemple, parce que sur la notice, il est bien écrit que c'est pour des douleurs et des choses de ce genre. À ce niveau, ça ne pose pas de problème. Non loin de là, Mamadia, il garde un œil vigilant sur sa table, son commerce. La boutique du coin était sa pharmacie et il ne s'en cache pas. Eh bien, j'allais à la boutique pour me procurer un médicament si j'ai mal à la tête ou parce qu'on en vendait dans les boutiques. L'automédication et les médicaments de la rue, un réel problème. Pour en savoir davantage, direction une officine sur la rue 6 à la Médina. Bassirou Traoré est docteur en pharmacie. Il est intraitable sur le phénomène.
Alors, dès qu'on me parle de médicaments, je ne réponds plus. Celui qu'on a acheté dans la rue, je ne vous réponds pas. Je ne parle pas de médicaments. Alors, j'y ai touché même à la limite un peu indisponible, mal poli.
La raison, l'automédication et les médicaments de la rue constituent un danger sans précédent.
Acheter des médicaments de la rue, c'est exposer sa vie, c'est-à-dire pratiquement en suicide.
Un autre problème, l'automédication.
L'automédication, je vous dis, doit être évitée. Chaque cas est un cas particulier. Un mal tête n'est pas simplement mal tête, ça peut être migraine, ça peut être beaucoup d'autres choses. C'est comme en pharmacie, maintenant la plaque est par la sorte, c'est à moins que 100 francs. Tout le monde en achète, n'importe quel mal. Mal de dos, mal de tête, mal de ventre, ça coûte que 100 francs. C'est l'automédication, mais ça ne devait pas exister.
Le phénomène est d'autant inquiétant et incompréhensible que toutes les spécialités qui sont en pharmacie ont des génériques. Et elles sont vendues en général à la moitié, voire au tiers de leur prix.
Georges de Tchédiop, la vente illicite de médicaments est très développée à tout bas. Les officines de pharmacie sont fortement concurrencées par des dépôts clandestins de médicaments. Abdoulaye Fam.
La vente illicite de médicaments est plus que jamais d'actualité. À Touba, la question est récurrente et le phénomène est devenu même banal. Conséquence, les dépôts de produits pharmaceutiques font légion dans la cité religieuse au point de créer l'amalgame dans les esprits, nous confie Aliou Sidibé.
La remarque que j'ai faite, c'est que, en général, à Touba surtout, presque toutes les pharmacies qui sont auprès des hôpitaux, c'est des dépôts. C'est pas des pharmacies agréées. Le client ne peut pas distinguer ça. Il y a le confort comme dans les pharmacies agréées. Donc il vient, il achète ce qu'il veut et il s'en part.
Sur ce point, Dr Tiongan, pharmacien à Mbaké, estime qu'il existe deux endroits légaux de vente de produits pharmaceutiques.
Le circuit du médicament est bien maîtrisé dans ce pays-là, au Sénégal. Il n'y a que deux sources légales qui peuvent dispenser, c'est-à-dire délivrer des médicaments. C'est les officines légalement installées et les structures de santé habilitées. En dehors de ces deux sources-là, tu as tout sauf le bon médicament. Il y a le problème de conservation, il y a aussi le problème de qualité de médicaments qui se pose. Ce n'est pas pour rien que l'État réglemente cette profession-là. Si c'était une vente libre, l'État donnerait l'autorisation à tout le monde.
Mais Serigne Kébé, parlant au nom du collectif des dépositaires de Touba, estime que les produits qu'ils vendent sont similaires à ceux vendus au niveau des officines. Il n'y a pas de grosse différence.
Les médicaments vendus à Touba sont similaires à ceux vendus dans les officines. Depuis Serigne Modou Moustapha, la présence de ces dépôts a été acceptée de manière positive par les populations qui résident à Touba.
Pourtant, les gens sont conscients du danger qu'ils encourent en achetant ces médicaments dans la rue ou chez les dépositaires. Mais avec la crise et la conjoncture, les gens s'abattent aux plus offrants. Abdoulaye Fam, Touba Mbaké, RFM.
Abdoulaye Fam, le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, bat en brèche l'argument de la cherté des médicaments pour justifier les recours aux médicaments de la rue. Selon lui, il s'agit d'un faux débat. Le docteur Cheikh Oumar Dia souligne qu'il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et la répression pour lutter contre la vente illicite des médicaments. Il est joint par Elhaj Ndioboudine.
Les médicaments qui sont vendus dans la rue sont autrement plus chers parce qu'ils sont vendus au détail, ils sont vendus au comprimé. Et ensuite, comme ils ne sont pas bons, quand vous achetez quelque chose qui n'est pas bon, donc vous perdez votre argent. On ne peut pas comparer l'achat de quelque chose qui est nocif pour votre santé à l'achat de quelque chose qui est bon pour votre santé. Donc ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que la plupart des médicaments existent aujourd'hui et dans le public et dans le privé en général. Ça veut dire dans des copies qui sont également efficaces que les médicaments princesse qui étaient là, que les spécialités qui étaient là et qui coûtent beaucoup moins cher. Et ces médicaments-là, on les trouve dans le public et dans le privé. Donc, ce n'est pas un problème de prix du médicament. C'est simplement peut-être ce sont nos populations encore n'arrivent pas à faire la part des choses. Les personnes qui proposent ces produits-là, donc quand même, elles causent beaucoup de méfaits à nos populations. Donc, il faudrait faire en sorte que ces personnes-là également arrêtent donc de proposer aux populations ces types de produits. Il faudrait également continuer avec les services de sécurité, tous les services de sécurité, les actions de répression.
Et c'est cher Tigane Diagne qui s'installe bien dans ce studio pour la page des sports. Bonjour cher.
Bonjour Antoine Diouf.
On démarre avec quoi? Du basketball? Du football,
ouais, tout à fait du football avec la 20e journée retard de la Ligue 1. Nyarita les Casasports, c'est cet après-midi au stade d'Embo Diop. Seuls deux points séparent au classement les deux équipes. Le Casasport est cinquième, juste derrière suit Nyaritali. Le trio de tête du championnat d'élite sénégalais composé donc de l'Union Sportive de Wakam, des étudiants du Dakar Université Club et des Médinois du Diaraf. Rappelons qu'à la mi-temps donc de la rencontre Nyaritali-Casasport cet après-midi, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue va être effectué. Sont concernés par ce tirage au sort les étudiants du Dakar Université Club, les Médinois du Diaraf, Thiès FC, le Niambour de Louga, la Lingard de Saint-Louis, Touré Koundé-Dembourg, AS Pikine et le vainqueur de la rencontre Nyaritali-Renaissance de Dakar. Basketball, préparatif Afrobasket, un groupe de Lyon laissé en rade à Dakar alors que l'autre partie se trouve en stage depuis 4 jours en France. Un problème de visa retarde encore le reste de leur troupe qui continue tout de même sa préparation ici à Dakar. Ils sont 8 au total. L'Afrobasket, pour rappel, est prévu du 17 au 28 août prochain à Madagascar. C'est tout pour cette page d'Espoir Andon Diop.
Très expéditif ce matin, cher Tidiane Diagne. Merci en tout cas, mais restez pour la chronique sport avec le Sénégal qui réclame ses binationaux, la France qui refuse, mais Baba Tanyan, président de la Fédération Sénégalaise de Basket et qui fait le forcing, Mais est-il véritablement nécessaire de se comporter de la sorte que non, nous dit notre chroniqueur. Il s'agit bien de Cheikh Tidiane Diagne.
Tous ne le disent pas haut, mais la plupart des amateurs et autres dirigeants du basket sénégalais n'estiment alors vraiment pas nécessaire de crier à tue-tête, comme l'a fait d'ailleurs le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Babatan Diagne, pour s'octroyer les services des ex-internationaux tricolores que sont Pape Badiane, Joseph Gomis et Pape Sy. Cet avis est partagé, d'autant que la France, même si elle ne sélectionne plus ses athlètes, est aussi dans son droit légitime de ne pas les mettre à la disposition du Sénégal, une équipe qu'elle pourrait rencontrer en éliminatoire des prochains Jeux Olympiques. Comme dit l'adage, on ne livre pas des armes à son ennemi, il vous tuera. En optant cette attitude, la France à coup sûr solde ses comptes avec le Sénégal qui lui a chippé certains de ses footballeurs. Le cas Moussa Sow est illustratif. Tombé aussi sous le charme du jeune Baïnyan, Sénégalais et Français se livrent une bataille sans merci pour l'avoir chacun dans son équipe sans s'en rendre compte. Alain Weiss, le tout nouvel entraîneur des Lions du basket sénégalais, me semble-t-il, est tombé dans son propre piège. Lui qui disait dans une interview que ces binationaux trentenaires, la France n'en a pas besoin. Question alors, Monsieur Weiss, le Sénégal devrait-il être la poubelle de la France sans prétention aucune? J'estime que non. Ces binationaux ciblés ont-ils montré un intérêt pour le Sénégal? Permettez-moi d'en douter. À ma connaissance, aucun d'eux n'a formulé une demande en ce sens. C'est d'ailleurs ce que stipule le règlement de la Fédération internationale de basketball. Il est vrai que sous son mandat, le controversé Babatan Diagne veut dans l'immédiat remporter le prochain Afrobasket pour mieux clouer le bec à ses détracteurs. Mais pour sûr, l'avenir du basketball national va se construire avec les jeunes qui ont fini d'étaler leur classe sur le terraflex du stadium Maurice Ndiaye. Imaginez que ces Messi, Pape Badiane, Joseph Gomis et Pape Sy arrivent. Ensuite, le Sénégal passe à la trappe, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans l'ordre du possible. Monsieur Tanguyan, vous aurez décrété votre propre descente aux enfers.
Et puis, ce sondage média sur le classement donc des médias sénégalais réalisé par International Communication, RFM toujours en tête dans la capitale, dans la région de Dakar, pour être plus précis. Il y a également le journal L'Observateur qui occupe toujours la tête de ce classement pour ce qui est des journaux.
Présidentielle 2012, RFM commence le décompte.
Les électeurs sénégalais vont trancher le débat.
Nous avons besoin d'un président crédible parce que bien élu.
Un seul candidat sera élu à l'issue du scrutin.
Le deuxième tour est inévitable.
Tous les jeudis, dans nos éditions d'information, retrouvez Binta Diallo pour un bloc d'infos sur le scrutin de 2012. L'évolution des sondages, portraits des potentiels candidats, reportages, décryptages, analyses et paroles d'hier, tout dans votre journal de la présidentielle 2012 sur RFM.
Le journal de la présidentielle avec Binta Diallo.
Merci de suivre le journal de la présidentielle. Les mouvements de soutien au menu de ce numéro, que peuvent-ils apporter aux formations politiques? Est-ce pertinent d'être militant d'un parti et de créer un mouvement de soutien dans ce même parti politique? Elhaj Ndiogoudienne.
À la veille de la présidentielle de 2000, plusieurs mouvements de soutien en faveur du candidat socialiste Abdi Diouf avaient vu le jour. 7 ans plus tard, le même scénario est noté, mais cette fois-ci en faveur du président candidat Wade. Ces mouvements de soutien émanent parfois des militants d'un parti. Ils permettent de ratisser large, selon le président du Mouvement national des jeunesses maquistes, un mouvement de soutien au leader de l'APR. Issa Diop est aussi membre de ce parti.
Les partis politiques, quoi qu'on puisse en dire, ont des limites. Le mouvement a deux avantages par rapport à un parti politique. Un mouvement est plus flexible qu'un parti politique, un mouvement est plus dynamique qu'un parti politique, ce qui lui donne, dans une certaine mesure, une plus d'efficacité.
Mais le journaliste Sore Diop lui trouve déraisonnable qu'un membre d'un parti crée un mouvement de soutien.
Non seulement on disperse sa force, mais ces mouvements de soutien, les gens les créent beaucoup plus pour tirer en particulier d'autres biens matériels en dehors du parti sous le prétexte qu'on a mis un mouvement de soutien et qu'il faudrait entretenir ces mouvements de soutien-là.
Le porte-parole adjoint du Parti socialiste souligne que les mouvements de soutien peuvent apporter des voix supplémentaires. Cependant, ils peuvent être source de problèmes, précise Abdoulaye Wilan.
Pour gagner des élections, il ne faut pas seulement compter sur les militants. Pour gagner des élections, il faut des citoyens électeurs. Le problème, c'est que s'ils sont soutenus plus que ne le sont motivés les militants du parti, ça peut créer des frustrations et ça peut créer un effet contraire.
Quoi qu'il en soit, les mouvements de soutien se multiplient et se font une place dans le landerneau politique des sympathisants.